Voici le deuxième épisode de ma série de podcasts sur l'année 1991. Au menu, tout le monde est fada du pins. Pour la première fois, une femme est premier ministre. Jacques Chirac se retrouve au cœur d'une polémique raciste. Pavarotti enchante le monde. Et l'OM tutoie les sommets européens.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
Au début de l'année 1990, des millions de Français arborent un tout petit objet, une sorte d'épinglette métallique, le pins. Et en 1991, on atteint le sommet de cette folie. Cette année-là, à la télévision, 295 reportages racontent le phénomène pins.
On m'en a donné quelques-uns au départ et... Après, j'ai trouvé ça beau, je les affiche, enfin, je les mettais sur moi et ouais, c'est le coup de foudre, quoi, franchement.
Et puis c'est également un moyen, je dirais, d'afficher, je dirais, ses convictions, ses envies, ses désirs.
Le pins se met à la boutonnière de veste, sur des pulls, sur des sacs ou sur des casquettes. Et les chiffres sont impressionnants. En 1991, 3 millions de pins sont fabriqués chaque mois. Et le premier salon international du pins se déroule à Paris.
Pendant 48 heures, l'espace Champéré cède à la pinsmania. Sur place, en direct, nous retrouvons Caroline Codefi aux côtés de Jacques Bescon, l'animateur du salon.
Et est-ce que dans ce salon, on peut trouver des nouveautés, des pins inconnus?
Alors déjà, vous pouvez y trouver le pins du salon, qui sera bientôt inconnu dans la mesure où il y en a 4000 de fabriqués. Par contre, d'autre part, il y a des pins où vous trouvez un pins musical, vous trouvez un pins parfumé. Vous trouvez également une très très belle réalisation de la société Ferrari qui est un pins en or de 18 carats et qui a été tiré en 130 exemplaires et la société Ferrari a demandé au salon d'en distribuer 90.
Alors en matière de pins, tous les goûts sont dans la nature. Il peut s'agir de l'effigie d'un sportif, d'un chanteur, d'une personnalité, d'une marque, d'un événement ou d'un parti politique ou même d'une radio. Évidemment, Europe 1 a son pins. Et en 1991, il est distribué gratuitement dans les rues de la capitale.
Très sympa.
C'est très sympa. Ils sont vachement beaux en plus. Ça va bien avec mon manteau. Voilà.
C'est sympathique. Merci.
Ça me plaît. C'est génial. Bon, merci et un joyeux Noël à tout le monde.
C'est sympa. J'ai entendu là, les plusieurs points qu'il y avait dans Paris. C'est sympa.
Je fais une collection, alors on en a profité. Puis on a entendu ça à la radio, alors je suis venue.
C'est sympa de la part d'Europe 1, c'est très sympa.
Tu es content d'avoir un pint?
Oui.
Tu vas le mettre où?
Dans ma collection.
Je trouve que c'est très sympathique. Très sympathique et puis ça donne un petit air de fête. C'est digne d'Europe numéro 1.
Et la chasse aux pins peut être une addiction. C'est le jeu favori de ce qu'on appelle les pinceurs.
J'essaie que les gens connus et les gens inconnus qui m'ont offert des pins soient réunis tous ensemble sur la veste, hein, bien sûr. Bon, il y a ceux qui sont devant, il y a ceux qui sont dans le dos parce que je suis bien obligé. Il y en a quand même 1300, ça fait 7,5 kg.
7,5 kg de pins sur une seule veste. Les gens en sont tellement fous que les pins deviennent un atout de drague.
D'abord parce que c'est bien placé et quand on touche, bah, si on se laisse faire, c'est bon. Et puis c'est un moyen pour engager la conversation. Oh, t'as un beau pins, moi aussi, ça.
En décembre 1991, la ville de Mulhouse a du mal à trouver de nouveaux inscrits pour ses listes électorales. Alors la veille de la clôture des inscriptions, le 30 décembre 91, la mairie tente un coup. Elle annonce que chaque nouvel inscrit recevra un pins de la ville de Mulhouse.
Dernier jour d'inscription ce matin sur les listes électorales. On se bouscule au portillon et les employés de la mairie ne savent plus où donner de la tête. L'opération Le Pins du civisme à Mulhouse a battu des records. À 11h, on racle les fonds du tiroir pour trouver d'autres pins différents du premier proposé.
Il n'y en a plus. Nous sommes en rupture de stock.
Mais qu'allez-vous faire maintenant?
Nous ne savons pas encore. Ma chef est en train de voir si nous pouvons en avoir d'autres.
La municipalité n'a jamais accueilli autant de monde depuis 12 ans pour des inscriptions sur les listes électorales. Cette opération a provoqué une augmentation de plus de 90% d'inscrits.
Autre idée lumineuse, en région PACA, le père Gilles Fiorny met en vente un pins pour financer les travaux de restauration du sanctuaire de la Madone Tutelle.
J'avais un veston avec au revers une petite croix et un petit gamin de 8 ans est venu me dire « Tu me donnes ton pins ». Alors je lui ai donné mon pins et puis ça fait rire les animateurs. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas un pins pour la Madone Dutel. Et tout doucement, on a fait un dessin et le pins est venu. On n'y croyait pas trop et puis la mode nous a aidés.
Mais à propos, où et comment cette folie est-elle née? Ah bah comme d'hab, aux États-Unis, au tout début du XXe siècle. Mais là-bas, ça a vraiment décollé dans les années 70, quand Coca-Cola a dégainé sa collection de pins. Et en France, l'idée a débarqué en 1987, lors du tournoi de Roland-Garros, qui lance son pins.
Ça représente quoi, ce pins? Pourquoi un engouement pareil?
Un engouement pareil, c'est un petit peu justement ce que n'ont pas pour une fois compris les Américains, c'est que toutes les sociétés françaises ont décidé de se servir du pins comme symbole de communication et d'en faire en à peine un an et demi un média à part entière.
Jacques Bescon, dites-moi une question, il ne faut pas être un peu fou pour collectionner des dizaines et des dizaines de pins?
Écoutez, c'est pas moi qui vais vous répondre de façon affirmative, dans la mesure où j'en possède moi-même à peu près 10 000 ou 11 000. Mais bien sûr que ma collection personnelle ne dépasse pas 700 à 800 pins. Et on arrive quelquefois à être très énervé pour rechercher tel ou tel pins, il est vrai.
Et la pinsmania va se poursuivre pendant longtemps, vous pensez?
Je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle et on est déjà en train de travailler sur 95 et 96. Et pour moi, j'ai toujours dit aux gens que pour moi, le pins sera le faire-part de l'an 2000.
Et non! La mode du pins ne passera pas l'an 2000. Elle aura même du mal à passer cette année 1991. Comme le constate Pascal Clark pour Europe 1, fin novembre 91.
Après la pinsmania, la pinsphobie. C'est le revers de la petite médaille de métal épinglée sur le revers de la veste. Si beaucoup continuent à courir les pins, pour d'autres l'allergie est franchement déclarée. Cri de dégoût d'un collectionneur de la première heure rencontré au mondial du pins.
C'est devenu un monde de margoulins, d'échanges, de ventes, de spéculations complètement débiles. Comme maintenant tout le monde collectionne des pins, tout le monde vous en parle. On vient me voir sans arrêt, on me dit tiens, t'as ce pins, on me présente un truc infâme, made in Taiwan, en époxy, qui n'a aucun intérêt.
Avec son tube de 91, Crazy.
L'année 1991.
Le 15 mai 1991, François Mitterrand, président de la République, nommé Edith Cresson Premier ministre. Aujourd'hui, on dirait Première ministre, mais à l'époque, c'est Premier ministre. Elle succède à Michel Rocard.
C'est une grande responsabilité, c'est un grand honneur. Et moi, je n'ai pas d'autre objectif que de servir la France. Je n'ai pas d'autre objectif que de tenter de répondre à des problèmes qui sont soit immédiats, soit plus lointains, mais qui sont ceux de la société française dans une période clé de son histoire, c'est-à-dire au moment de la construction européenne, au moment où tous les événements de l'Est, la guerre du Golfe, ont modifié énormément la donne internationale, et au moment où les Français se trouvent confrontés à beaucoup d'interrogations.
Le président Mitterrand vient de désigner pour la première fois une femme à ce poste. Et Europe 1 sonde Yvette Roudy, qui fut ministre des Droits de la Femme lors du premier mandat de François Mitterrand, et qui évidemment applaudit.
C'est une grande première en France. Nous n'avions encore jamais eu de femme Premier ministre. À l'autre, c'est une femme qui a une grande expérience gouvernementale, qui a montré son courage, ses capacités. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui est, tout le monde le sait, tout à fait fidèle au président de la République. Et donc nous sommes sûrs, là, d'avoir un tandem président-premier ministre qui marcheront la main dans la main.
Comme tout nouveau premier ministre, Édith Cresson fait un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, elle en prend plein la figure. Sur Europe 1, chez Jean-Pierre Elkabbach, c'est Alain Juppé qui sort la sulfateuse.
Jean-Pierre Elkabbach reçoit le secrétaire général du RPR, Alain Juppé.
Bonjour.
Bonjour.
Ben vous voyez, monsieur Juppé, jusqu'ici, il n'y a pas de quoi s'effrayer.
Bon, écoutez, je me demande s'il faut encore tirer sur le nouveau Premier ministre.
Comment encore ?
Bon, y a un tel concert de critiques depuis hier soir que j'hésite un peu à ajouter la mienne.
Mais est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas tous un peu sévères à l'égard de madame Cresson hier dans l'hémicycle ? Et que c'est à la mesure de la peur ou du désarroi que vous avez eu quand vous avez vu arriver une femme de tempérament à Matignon ? Entre nous.
Pas eu du tout de désarroi, plutôt une réaction sympathique au départ. Non, revenons quand même à ce discours. Il y a des discours de Premier ministre qui marquent, qui restent dans les esprits. Là, hier, rien. Sur le plan de la forme, c'était un peu scolaire et laborieux, alors que Mme Cresson sait être tonique quand elle le veut. Mais au-delà de la forme, ce qui compte, c'est le fond. Et là, je n'ai pas très bien compris.
Mi-juin 1991, après les critiques de la droite, Édith Cresson se trouve au cœur d'une polémique international. Le journal anglais L'Observer publie un long entretien avec la première ministre française. Et deux extraits de cette interview font bondir les anglo-saxons, et pas que. D'abord, elle dit qu'elle ne supporte pas que les hommes anglais ne la regardent pas quand elle se promène dans la rue. Et ensuite, selon elle, 25% des Anglais, des Américains et des Allemands masculins seraient homosexuels.
Inutile de préciser que ces remarques n'ont pas été très appréciées de ce côté-ci de la Manche. Pour le député conservateur Teddy Taylor, notre Premier ministre ne comprend pas les bonnes manières des Anglais. Un gentleman, explique-t-il, ne reluque pas les femmes dans la rue. Quant au très sérieux Daily Telegraph, le journal ne peut s'empêcher de noter que la réflexion est quelque peu surprenante de la part d'une femme née au pays de Proust, Gide, Verlaine, Cocteau, Monterland et Jean Genet. Et le délitégraphe de conclure acide en imaginant les réactions si John Major avait ressorti les vieux clichés éculés et décrit les Françaises comme des femmes à la sexualité vorace, spécialisées dans les dessous affriolants et sentant l'ail. Londres, Esther Lenneman, Europe 1.
La polémique est énorme. Et Édith Cresson, quelques années plus tard, finit par s'expliquer sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
Il paraît qu'il y a 4 ans, vous avez dit à un écrivain qui faisait un livre sur les femmes, il interrogeait beaucoup de femmes, que les anglo-saxons ne sont pas intéressés par les femmes et qu'un Anglais sur 4 est homosexuel. Il faut peut-être demander l'avis des Anglaises, mais enfin, vous,
c'est ça fait un vrai... C'est difficile d'établir une statistique.
Un vrai tollé, autrement.
Oui, ce monsieur a écrit un livre en interrogeant un certain nombre de femmes. J'observe que dans son livre, d'après ce qu'on me dit, parce que je ne l'ai pas lu, ma soi-disant interview ne figure pas. Donc, je trouve
mais vous l'aviez reçu.
Je trouve ce procédé... Je ne me souviens pas de l'avoir reçu. J'ai peut-être eu une conversation avec un journaliste anglais, parce que j'ai eu des conversations avec beaucoup de journalistes, surtout il y a 4 ans, c'était pendant la période de la cohabitation. Je ne me souviens pas très bien de cette conversation, si elle a eu lieu. Tout ce que je sais, c'est que si j'avais eu une conversation et qu'il l'ait jugée intéressante, il l'aurait sans doute mise dans son livre. Et aujourd'hui, il prétend ressortir des éléments. Et voilà, je n'ai rien à ajouter de supplémentaire sur cette soi-disant interview qui sort d'un tiroir, je trouve le procédé n'est pas très fair play.
En 1991, Edith Cresson n'est pas dupe. Elle sait bien que les coups viennent de la droite, mais aussi de son propre camp, le camp socialiste.
Le Premier ministre se déclare persuadé que les échos malveillants concernant sa gestion, son image et sa méthode de communication ont été alimentés par le Parti socialiste lui-même, le PS, censé la soutenir. C'est pour François Mitterrand et pour lui seul qu'Edith Cresson a accepté de quitter le secteur privé et de venir prendre la direction du gouvernement, éviter au président de la République une nouvelle cohabitation avec la droite. Voilà l'objectif numéro un pour le Premier ministre. Il lui reste 20 mois avant les élections législatives. Mais pour agir, Edith Cresson a besoin d'un parti uni et qui réfléchit. Or, dit-elle, tant que le PS n'a pas de projet clair, on est obligé de gouverner un peu au pif.
Mais le 14 juillet, le président Mitterrand réaffirme son soutien à sa première ministre. Il ne la lâche pas. Et c'est un message à peine voilé à destination des socialistes qui sont priés de se remettre en ordre de marche électorale.
Il est important que le Premier ministre soit cette femme de courage, pratique, ayant le sens des choses concrètes, ayant du bon sens, de l'énergie et voulant de l'action. Quand on change les habitudes, ça dérange. Et c'est vrai que Mme Cresson dérange. Alors il y a pas mal de gens qui sont contre, mais moi je suis pour.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.
C'était Un homme heureux de William Scheller en 1991.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
En juin 1991, le président du RPR, Jacques Chirac, voit bien que le Front National ne cesse de monter dans les sondages. Alors, il s'aventure sur le terrain préféré de l'extrême droite, l'immigration. Le 12 juin 91, à l'Assemblée nationale, Jacques Chirac demande à Édith Cresson, Premier ministre, de réguler l'immigration clandestine.
Les remèdes sont clairs, ils sont connus. Il s'agit d'abord de maîtriser les entrées d'étrangers. Il s'agit de rechercher et d'expulser les clandestins, de punir durement ceux qui les font venir. Il s'agit de mettre un terme aux facilités du regroupement familial. Il s'agit de réduire le droit d'asile à ce qu'il doit l'être. Il s'agit d'ouvrir enfin un débat auquel nous n'échapperons pas sur le point de savoir si les étrangers doivent avoir les mêmes droits que les Français en matière de prestations sociales dans la mesure où celles-ci ne sont pas la contrepartie d'une cotisation. Mais cette politique nécessite une volonté. On dit que vous n'en êtes pas dépourvu. Il faut nous le démontrer aujourd'hui. Madame le Premier ministre, vous avez le pouvoir. Exercez-le. Agissez. Il n'est que temps.
Édith Cresson ne se démonte pas. Et face à l'ancien Premier ministre, elle dégaine.
Monsieur le Premier ministre, je dois dire que, sauf pour les deux dernières phrases de votre intervention, j'avais le sentiment de ne pas entendre Jacques Chirac, mais Jean-Marie Le Pen.
Depuis quelques mois, en effet, on reproche à Jacques Chirac de faire de l'œil aux électeurs de l'extrême droite. Une semaine après sa passe d'armes avec Édith Cresson, Chirac tient un meeting à Orléans. Et une fois encore, il s'attarde sur son nouveau thème fétiche, l'immigration. Et ça va faire beaucoup de bruit.
Depuis trois mois, dans ses tournées provinciales, Chirac rôde un discours. Il teste ses effets, il transforme son répertoire. Aujourd'hui, il ne lésine plus.
Comment voulez-vous que le travailleur français, qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre.
Chirac parle sans complexe, mais ses propos choquent. Et d'ailleurs, sont choquants. La polémique est immédiate. Le maire de Paris est raciste. Immédiatement, les principaux membres de la Chiracie se mettent en ordre de bataille pour éteindre l'incendie. Philippe Séguin en tête.
Chirac est le tout premier à souhaiter qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation et que les immigrés qui sont en situation régulière, les immigrés qui sont en cours d'intégration, les immigrés qui ont déjà la nationalité française, ne prennent pas pour eux un propos de rejet qui s'adresse à l'immigration clandestine ou un propos de refus qui s'adresse à de l'immigration supplémentaire.
Mais Jacques Chirac assume ses propos le lendemain. Il s'en explique au JT de 20h d'Antenne 2. Face à lui, le journaliste Rachid Arap.
Vous savez, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son doigt ni avoir une langue de bois. J'ai rapporté les propos, dans le cas particulier que j'ai entendu lors d'une visite dans un quartier difficile de Paris, mais que tous les hommes politiques entendent, s'ils veulent bien être à l'écoute des Français. Ces propos, je ne les cautionne pas, bien entendu. Ce ne sont pas mes propos. Ce que je dis, c'est que c'est ainsi que de plus en plus, on est en train de créer une situation de tension qui exige qu'on en prenne conscience. Et ce n'est pas en s'abritant derrière une idéologie ou une bonne conscience apparente qu'on réglera les problèmes.
Mais c'est pas fini. Le 25 juin 1991, à l'appel d'associations antiracistes, un millier de personnes manifestent devant l'hôtel de ville de Paris. Mais en 1991, Jacques Chirac n'est pas le seul à radicaliser la droite. À la rentrée, dans une interview au Figaro magazine, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, assimile l'immigration à une invasion. Il propose même de substituer le droit du sang au droit du sol. Et Chirac, plus soi.
Je dois vous dire que je trouve que c'est l'expression même du bon sens. J'observe d'ailleurs que cela traduit très exactement ce que pense l'immense majorité des Françaises et des Français. Il y a un vrai problème, celui de l'immigration. Il faut vraiment prendre les mesures aujourd'hui qui s'imposent et celles qui ont été proposées par Valéry Giscard d'Estaing, sous réserve bien sûr d'en examiner les modalités de détail, me semble dans la bonne ligne, en tous les cas, relève d'une philosophie qui est celle du bon sens.
À gauche, on accueille la vision de Giscard avec stupéfaction. Parler d'invasion, c'est évoquer la guerre. Pour Bernard Tapie, député radical de gauche des Bouches-du-Rhône, la formule de Giscard n'a qu'un but électoraliste.
Elle est tout simplement monstrueuse. Elle rappelle des mauvais souvenirs. La voix du sang, quand on commence à parler comme ça, c'est qu'on est vraiment à bout. Alors, ce qui est grave, c'est que ça nous montre une chose. C'est que lorsque Chirac avait fait son allusion aux odeurs, on s'était tous vraiment émus en disant, même en lui donnant des circonstances atténuantes, en disant, bon, il pense pas ça, en fait, etc. Bah, le fait est que c'était l'horreur quand même et qu'il avait pris 4 ou 5 points dans l'opinion publique. Ça veut dire qu'il y avait en France des gens qui étaient satisfaits d'avoir entendu Chirac dire ça. Et Giscard, qui est en train de perdre complètement position par rapport à Chirac dans ses primaires présidentielles, bah, il a trouvé une nouvelle formule un peu plus monstrueuse encore. Je pense qu'il va monter dans les sondages.
Les propos de Giscard et Chirac sur l'immigration marquent 1991. 4 ans plus tard, le groupe toulousain Zebda sortira un morceau intitulé « Le bruit et l'odeur » dans lequel on retrouvera un sample du discours de Chirac.
Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
En juillet 1991, sur Europe 1, Catherine Ney reçoit Jean Nouvel, l'architecte français star du moment. Il vient de signer l'Institut du monde arabe à Paris et il est en train de rénover un quartier de Prague. Pour Jean Nouvel, dans chaque projet, il veille à ce que la modernité résonne avec le passé.
Mais alors, est-ce qu'un architecte, il peut tout faire et uniquement se fier à son imaginaire, ou est-ce qu'il a des droits et des devoirs ?
L'architecture est très naturellement une discipline artistique censurée quotidiennement.
Par le public, vous voulez dire ?
Par le public, mais aussi par des architectes contrôleurs. Il y en a de tous les côtés. Un architecte des bâtiments de France, aujourd'hui, c'est pire qu'un juge. Il suffit qu'il dise ça ne me plaît pas et ça ne se fait pas.
Et ce jour-là, sur Europe 1, Jean Nouvel présente son nouveau projet pour Paris. Ce sera une tour sans fin.
Ce projet a comme caractéristique de vouloir positionner Paris
à la défense,
en termes symboliques, comme place économique en Europe, la défense comme grand quartier d'affaires.
Et alors pourquoi l'avoir appelé sans fin ?
Parce que la tour est toujours un objet un peu métaphysique. Depuis que l'homme est homme, il essaie de construire le plus haut possible, de faire croire que c'est le plus haut possible. Or là, la caractéristique de cette tour, c'est qu'elle commence dans un cratère à 25 mètres de profondeur, ce qui veut dire qu'on ne voit pas son pied, puisque c'est un cratère qui est noir, qui est en granit, et petit à petit ce granit noir devient gris foncé, gris clair, plus brillant, les verres deviennent de plus en plus clairs, et ça se termine par un cylindre de verre à 420 mètres de haut, dans lequel il n'y a pas de plancher, donc on voit tout le ciel à travers. Et en fait, donc on voit, pour peu qu'il y ait un peu de nébulosité dans l'air, on ne voit pas la fin de la tour, donc on ne voit pas son commencement, on ne voit pas son pied, on ne voit pas sa tête, et métaphoriquement parlant, donc c'est une sorte de trait d'union entre le centre de la Terre et le cosmos.
Jean Nouvel espère que ce plus haut gratte-ciel d'Europe sortira de terre fin 1995, mais vous connaissez la fin. Ce projet ne verra jamais le jour. Autre homme de ce début d'été 1991. Luciano Pavarotti. Le ténor italien flirte avec ses 56 ans et il est incontestablement le plus grand et le plus populaire des chanteurs d'opéra depuis Enrico Caruso, qui, lui, avait enchanté le début du siècle. Le 31 juillet 91 à Londres, Luciano Pavarotti fête ses 30 années de carrière au cours d'un spectacle royal et bien arrosé.
Pour se protéger de la pluie, Diana avait déplié une cape en plastique jaune sur ses genoux. À ses côtés, le prince Charles et John Major trempés jusqu'aux os, comme tout le monde. Mais l'orage n'a pas gâché la fête. Près de 100 000 personnes ont bravé la colère du ciel hier soir pour fêter les 30 ans de carrière de Luciano Pavarotti. Assis au premier rang, les amateurs fortunés avaient payé jusqu'à 4000 francs pour la soirée. Pour les autres, le concert était gratuit. Et ils sont tous restés jusqu'au dernier accord. Les femmes en robe longue, recouvertes de sacs poubelles, et les punks qui n'avaient jamais imaginé que l'on peut aussi vibrer à un air d'opéra. Les jeunes, couchés sous des tentes improvisées, et les moins jeunes, qui étaient arrivés à 6 heures du matin pour être certains de bien voir la scène.
Ce soir-là, Pavarotti régale le public britannique, notamment avec des titres comme celui-là. « Oh, sole mio !» À Hyde Park, à Londres, ils sont 100 000 à assister à ce show du ténor italien, avec orchestre symphonique et 150 choristes. Le parc londonien n'avait pas accueilli pareille foule depuis 1969 et le concert des jeunes Rolling Stones.
C'est absolument quelque chose dans la vie une fois.
Extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, parce qu'avec toute cette foule, toute une ambiance, c'est... Il fallait aller à Londres.
Bah, il faisait un peu froid, on voyait pas grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça allait, c'était formidable. Luciano Pavarotti était superbe.
Londres, Esther Lenneman, Europe 1.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
Le 20 mai 1991, l'Olympique de Marseille est en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. La France n'avait pas connu ça depuis 1976 et l'épopée des Verts de Saint-Étienne. Et en 15 ans, le football a fait du chemin. Il est devenu extrêmement populaire. Alors en ce jour de finale, la France retient son souffle et hormis quelques Parisiens, tout le monde est derrière l'OM.
Bonjour, jamais, on n'a encore jamais gagné, alors ce soir, sera-ce le grand soir ? L'OM contre l'Étoile Rouge, les Marseillais contre les Yougoslaves, le tout à Bari, au sud de l'Italie.
Ce soir-là, Europa garde bien sûr un œil sur Marseille, grâce à Roger Hardouin.
Depuis 1h du matin, l'aéroport de Marseille-Provence résonne des chants, des cris et des slogans des supporters marseillais qui ont commencé à embarquer à partir de 2h avec une passion et un enthousiasme débordant à l'image de cette supportrice qu'Edmond Zucchelli a rencontrée à 5h du matin.
Sensationnel, je suis très heureuse de partir là-bas parce que je suis persuadée que nous allons avoir une victoire. L'OM, ce sont les plus forts et nous allons faire le grand chelem un grand jour. C'est un très grand jour, nous sommes déjà excités dès le matin et ça va continuer. Nous essayons de ne pas trop crier pour le moment parce que nous voulons garder notre voix pour ce soir, pour être en pleine forme, pour être vraiment les bons supporters de l'OM. Voilà. J'ai la casquette, le tricot, les deux écharpes et même la culotte.
La fête est immense. Tout l'aéroport provençal est aux couleurs de l'OM, jusqu'au menu du restaurant.
C'est un menu olympien. À 100 francs, alors, qui comporte une salade olympienne, saumon, surimi, dorade, tomate, citron, enfin pour la circonstance. Un trio majeur ensuite, avec papinade d'anglais, pelée, sauce poivrade, chou-fleur du Barry, ou un demi-coquelé à la brésilienne. Ensuite, vous avez un sorbet aux trois couleurs, évidemment, bleu, blanc et rouge. Alors, le citron bleu, le pamplemousse et la fraise. Tout le monde aussi est habillé aux couleurs de l'OM, à part les cuisiniers. En bleu et en blanc, hein, casquette ou toque amélioré, enfin, tout est fait pour l'OM aujourd'hui. Tout le monde vibre là, hein, je veux dire. Bon, ce matin, il y a eu une ambiance phénoménale. Hein,
Alors, si l'OM marque un but, là, il y aura quand même...
une explosion, il va y avoir de la sauce jusqu'au plafond. Hein, c'est...
Quelques heures avant le début du match, à Bari, ça y est, tous les supporters marseillais sont arrivés. Ils sont prêts à chauffer le stade.
Mais les plus fidèles. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a une équipe de forains d'Anvers.
C'est sûr, on gagnera.
Si on gagne pas, c'est le plus grand malheur qui nous arrivera. De façon.
Le problème qu'il va y avoir, c'est que les Yougoslaves vont pleurer, ça nous fait un peu mal au cœur. C'est pas méchant.
J'ai prié, moi. Tu vois, par la Sainte Sarah, j'ai pas pu y aller. Mais j'ai prié la bonne mère.
Il y a 20 ans, monsieur, que je l'attaque.
Parmi les superstars de l'OM, il y en a un qui attend cette finale avec impatience. C'est un minot. C'est le seul enfant du cru. Il s'appelle Eric Dimeco.
Ça fait 11 ans que je suis là. J'ai connu des périodes un petit peu difficiles, notamment à Marseille, où je suis arrivé l'année de la descente, où il y a eu un petit peu des problèmes. Et j'avoue qu'une finale de Coupe d'Europe après tout ce parcours, c'est un petit peu inespéré et c'est un petit peu un rêve.
Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Ça ne se passe pas exactement comme espéré. D'abord, au bout de 90 minutes de match, le panneau affiche toujours 0-0. Alors, il va falloir en passer par les tirs au but.
Alors maintenant, c'est Manuel Amoros qui va tirer pour l'équipe marseillaise. Le gardien de but est donc parfaitement concentré sur sa ligne. Manuel Amoros prend beaucoup d'élan et il manque le... Pénalty, c'est terrible, le gardien est parti du bon côté et Manuel Amoros manque le pénalty. Aïe, 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 aïe.
Et à l'inverse, le joueur yougoslave ne tremble pas et l'Olympique de Marseille échoue en finale. Et pour la première fois d'ailleurs, un club slave remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais comme rarement, Bernard Tapie est bon perdant.
Tout le monde pleure dans les vestiaires. Il y avait Boli et le petit Pelé qui étaient en train de pleurer l'un dans l'autre. Puis le médecin qui pleurait avec Jean-Pierre. Puis Amoros qui s'excusait. On est très malheureux. Mais enfin voilà, la dimension reste celle que le sport a le droit de nous procurer.
Est-ce que cette règle des pénaltys n'est pas un petit peu dépassée quand on voit la tension qu'il y a eu dans ce match ?
Bah, c'est ce qu'on dit quand on est battu, quoi. Moi, si j'avais gagné, j'aurais dit, c'est une bonne règle. Quand on pense qu'avant, c'était la pile ou face, alors là, c'était encore pire.
Le lendemain, les joueurs olympiens rentrent à Marseille. L'accueil des fans est très chaleureux.
C'est eux les champions d'Europe, c'est eux. Ils ont gagné hier.
Et là, vous avez le sourire encore ?
Ah bah oui, il faut, hein. Si nous aussi, on se met à pleurer, où va-t-on ?
On est venu voir l'OM.
Et vous êtes venu malgré la défaite ?
Malgré la défaite, pardi.
Ouais.
Malgré la défaite, nous venons quand même.
Et vous êtes venu pour les soutenir, pour les encourager ?
Pour la prochaine fois.
L'OM, c'est les meilleurs.
L'année prochaine.
Dis-toi.
L'année prochaine, on gagnera, c'est pareil. On va gagner la Coupe de France.
Vous êtes venu pour quoi aujourd'hui ?
Eh bien, pour voir les joueurs, pour les réconforter un peu après la défaite hier. On est tous là pour l'OM. On est toujours là pour les encourager, aussi bien dans la victoire que dans la défaite.
La ferveur des supporters marseillais réconforte Basile Boli, le défenseur, qui était inconsolable après la défaite.
C'est extraordinaire. On ne peut pas... C'est l'enfer, quoi.
Est-ce que ça vous console un peu ? Hier, on vous a vu, tout le monde vous a vu, et c'était terrible. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu mieux quand vous voyez tout ce public ?
Parce que je trouve que les gens sont quand même heureux de tout ce qu'on a fait. Je pense que c'est le plus important.
Vous êtes très ému aussi aujourd'hui ?
Ému parce que... On aurait bien voulu la ramener, celle-là.
Vous avez envie de la ramener à nouveau pour eux ? Vous avez envie de vous battre encore pour eux ?
C'est notre métier. Je pense qu'il faut persister. C'est le plus important.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même poste. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. On n'avait plus rien à se dire, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule.
de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Pascal, je pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenu des grands hommes.
C'était Place des grands hommes. Fameux titre de Patrick Bruel, fan de ballon rond. Même si lui, c'est plutôt le PSG. Tiens, le PSG, parlons-en. En 1991, le club de la capitale est très loin des succès marseillais. Mais ça bouge. Fin mai 1991, le PSG a un nouveau propriétaire, Canal+. Pierre Lescure, dirigeant de la chaîne cryptée, explique l'investissement.
L'une des forces vives de Canal+, c'est le football. L'OM, c'est bien. Monaco, c'est pas mal. Auxerre, c'est souvent très bien. On veut qu'il y ait d'autres grands clubs. Et quel plus beau lieu d'atterrissage pour Canal+, pour participer à la dynamique du football que la ville de Paris. Alors nous nous offrons beaucoup de choses, mais d'abord du cinéma et du football. Donc tout ce qui est bon pour le football est bon pour nous.
Dans la foulée, Michel Denisot, féru de foot, débarque à la direction du PSG. Et il va écrire l'une des plus belles rivalités du sport français, les fameux PSG-OM, ou OM-PSG.
Je continuerai de faire des émissions sur Canal, mais c'est vrai que j'arrêterai les commentaires du championnat parce que ça serait déontologiquement impropre.
Combien gagnerez-vous par mois?
Rien, je ne gagne rien, je suis bénévole.
Europe 1. Eh ben on va se quitter là-dessus. Merci à mes fouteux qui, eux, ne sont pas bénévoles. Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski pour la réalisation. Nous n'oublions pas Sylvaine Denis à la documentation d'Europe 1. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1991 dans le 3e épisode d'On-delà-te raconte une année.
Retrouvez On-delà-te raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.